du coup c'est le Canu Info du vendredi soir. Il est 19h passé de 5 minutes et comme tous les vendredis, il y aura une rubrique anticarcérale et les messages. Mais tout d'abord, on va commencer avec un petit texte analyse critique des médias sur la situation en Ukraine. Puis on reviendra sur les arrestations, sur les manifs de Calais et de Nantes, pour finir par un petit appel par rapport au film Tomboy et puis l'habituelle rubrique anticarcérale avec du coup plein d'actualités sur les prisons.
Et avec enfin, comme d'habitude, les messages pour les prisonniers, prisonnières de la région de Corba, de Lyon.
Et oui. Du coup, c'était un peu le constat qu'on avait un peu du mal à s'y retrouver sur ce qui se passait en Ukraine, malgré le fait qu'on pouvait chercher dans différents médias de la grande presse, type AFP, Monde, Libération. Moi, comme je ne regarde pas la télévision, j'ai pas les images sensationnelles sur ce qui se passe en Ukraine. J'écoute les infos et du coup, on arrive difficilement à savoir en fait qu'en Ukraine, par exemple, les groupes qui prennent le pouvoir en ce moment sont en fait des groupes avec des idées nazies. Et voilà, du coup, en cherchant un peu pour avoir des nouvelles à vous raconter pour ce Canu Info du vendredi soir, parce que voilà, on n'est pas des experts dans l'actualité, on n'est pas des journalistes, on fait pas ça tous les jours. Du coup, on tente un peu comme ça de vous amener un regard critique sur ce qui se passe dans le monde, en France, et puis vous amener des nouvelles des luttes. Bah là, en ce moment, on est un peu paumé sur les luttes, quoi. Et du coup, je suis tombée sur un texte de Mediapart et je vous en lis, c'est un très très bon texte, je vous en lis juste une partie qui m'a intéressée et je n'ai pas réussi à retrouver les références avant le Canu Info. Il faut savoir en fait que Mediapart est un site qui est payant sur internet, c'est comme ça qu'il vit, c'est son principal financement, il n'a pas de publicité. Comme Radio Canu, mais Radio Canu n'est pas financé de la même manière. Mais c'est pareil, c'est une radio sans pub. Et du coup, c'est pour garantir leur indépendance qui se gargarise de ne pas avoir de pub. Et en fait, c'est des dissidents de grands journalistes du monde de Libération qui ont créé ce journal il y a quelques années. Voilà. Et du coup, il y a des articles faits par des journalistes et du club. Allez, je me lance dans la lecture.
Vas-y, on écoute. Bon. L'Ukraine.
Et la Russie. La version médiatique dominante en Europe et en Amérique du Nord est la suivante, grosso modo. Le peuple ukrainien s'est insurgé contre un régime corrompu et de plus en plus répressif, qui voulait rester sous la lourde tutelle russe, tandis que la rue voulait entrer dans l'accueillante et moderne sphère des échanges européens. Le peuple ukrainien a remporté la victoire en chassant le président dictateur. La Russie ne l'accepte pas parce qu'elle a peur que la même chose lui arrive et parce que pour elle, l'Ukraine lui appartient. Effectivement, il y a plein de russophones qui parlent russe, d'où l'attachement avec la Russie. Une petite aparté sur les analyses aussi de si on parle telle langue, ça veut dire qu'on serait attaché à un peuple mère. Ça pose un peu question pour la France, grand pays colonisateur. Les démocraties sont bien embêtées, mais elles ne peuvent pas laisser faire, elles qui ont été bien bonnes de participer aux JO de Sotchi. Il est relativement aisé de démontrer que cette présentation est absurde et biaisée. La représentation, on devrait dire la narration, tel un conte ou le storytelling, qui est une technique en fait que les politiques et puis les spin doctors, les personnes qui sont dans l'ombre et qui les aident à écrire leur discours, écrire leur ligne, c'est une sorte d'une manière de raconter, de se raconter ou de raconter les conflits. Du coup, cette représentation d'un mouvement populaire pro-européen relève d'un mauvais conte de fées. Même s'il est vrai que la misère en Ukraine a nourri illusion et espoir envers, entre guillemets, l'Europe, tout ça fait taire l'action de l'extrême droite dans ce mouvement populaire. La vision implicite ou explicite des relations internationales que nous avons là est parfaitement manichéenne et donc absurde. La Russie jouant par définition le rôle du grand méchant, et c'est un peu le retour de la guerre froide là, qui plane sur l'Europe en ce moment. Et les manœuvres impérialistes visant à l'encercler et à dominer la mer Noire sont ignorées. Du coup, ce serait l'Europe qui voudrait avoir une main mise sur cette région-là. L'Union européenne, cette caverne de mesures autoritaires organisant la misère de masse sur toute la rive nord de la Méditerranée, contre laquelle grèves et manifestations de masse n'ont pas cessé de déferler dans les Balkans, voisins de l'Ukraine depuis 2 ans, comme bah, on vous l'a du coup exposé dans les derniers Canu Info du vendredi, vous pouvez réécouter tout ce que nous avons expliqué, notamment sur la Bosnie. Alors, peut-on croire à cette version ? Et face à ça, il y a le storytelling anti-impérialiste. Et du coup, cette représentation que nous donnent les médias, que je vous disais, qui était un peu là, tu fais... On comprend pas vraiment très bien ce qui se passe en Ukraine et en Russie, surtout que l'Ukraine, avant, n'entendait pas du tout parler. Donc d'un seul coup, l'Ukraine est sur les feux, sous les feux comme ça, des médias, et tu fais « mais oui, mais ». Et du coup, paf, la réponse comme ça des sceptiques comme tous nous sommes ici à Radio Canu et peut-être vous auditeurs et auditrices d'être un peu la même chose, un peu bah méchant média, on vous croit pas. Du coup, il serait tellement impossible de croire à la version que je vous avais dit des contes de Perrault, le méchant, la gentille et voilà, et le méchant reste méchant, la gentille reste gentille. Que du coup, beaucoup pensent que la vérité peut être dessinée en en prenant simplement le contre-pied, ce qui est une manière d'en être en fait prisonnier, prisonnière. L'autre version s'apparente à la version officielle de l'État russe et se nourrit d'ailleurs très largement aux informations vraies ou sélectives ou fausses que distillent en abondance sur le net les officines de ses services. Le rejet d'une propagande peut conduire à se jeter dans la gueule d'une autre propagande. Ici, les événements en Ukraine sont expliqués premièrement par l'émigration occidentale, deuxièmement par l'action des fascistes et des nazis, et si l'on concède que des gens de la rue, du peuple, des jeunes, des prolétaires se sont mobilisés, c'est pour estimer qu'ils sont juste manipulés. Car comme le veut un proverbe se voulant subtil, tout ce qui bouge n'est pas rouge. Moi, j'en avais jamais entendu ce proverbe. Il y a donc eu un coup d'État en Ukraine qui plus est fasciste, voire nazi. La Russie a donc bien raison de réagir. Dans le texte que je ne vous lis pas en intégralité, il faisait aussi une critique de Mélenchon sur ses positions face à l'Ukraine, que j'ai enlevé. Du coup, j'ai enlevé la critique qu'il faisait sur le front de gauche, qui aurait été assez intéressante de voir comment un parti. Gauchiste se positionne, mais je me suis un peu plus arrêtée sur l'extrême droite. Excusez-moi de mon impartialité, voilà. on est faibles et tous avec des défauts. Et oui. Et du coup, là, je fais une citation. L'UE doit se retirer, il faut tenir à distance 2 acteurs, l'UE et BHL, Bernard-Henri Lévy. Partout où il va, les missiles tombent. Ces propos ont du vrai et susciteront les applaudissements appuyés des militants pour qui le monde se partage toujours en 2 camps, comme les médias dominants le montrent, mais en inversant leurs signes. Le camp du mal serait donc celui du marché et de l'impérialisme, du coup ça touche tous les communistes, les gauchos, les anards et tout, du coup de montrer du doigt, d'avoir une critique forte en fait sur l'action que peut mener la France, notamment en Afrique en ce moment, l'Union Européenne avec l'OTAN, notamment l'OTAN par exemple, les bombes qui jettent à tort et à travers, par exemple pendant le conflit en Turquie avec les Kurdes, qui s'est un peu calmé mais quand même pas complètement, ou ailleurs, voilà, les États-Unis. Et d'une façon ou d'une autre, malgré tout leur travers, la Russie et les pays qu'elle influence de Damas à Kiev il y a peu résisteraient à cet empire, entre guillemets. Le petit problème est que l'auteur, par exemple, de cette petite phrase, prononcée le 20 février dernier, combattant pour le retrait des troupes impérialistes, donc du coup l'armée européenne qui est l'OTAN, à Kiev n'est autre que Florian Philippot, vice-président du Front National. Et du coup une autre phrase aussi d'Emeric Choprade qui est conseiller pour les relations internationales de Marine Le Pen. Kiev n'a plus de gouvernement légal mais agit sous la pression de ministres radicaux qui ont annulé la démocratie, balayé les droits linguistiques des russophones, limité les programmes de télévision d'opposition, arraché les églises orthodoxes ukrainiennes du patriarcat de Moscou et menacé d'annuler l'autonomie de la Crimée par des traités. Nous avons affaire ici à des éléments de langage, à un storytelling symétrique qui ne font qu'inverser le discours dominant du journal télé. Du coup, dans l'opposition ferme de l'Union européenne et de l'OTAN, il faut aussi se méfier des personnes qui produisent la critique. Et aussi, à quel moment, parce que par exemple, Jean-Luc Mélenchon, c'était, il critiquait à fond l'impérialisme européen, mais par exemple, il se félicitait que les troupes françaises interviennent en France-Afrique. Et voilà, du coup aussi des discours qui tiennent pas la route jusqu'au bout. Journaliste de Mediapart veut donc montrer la sympathie et les liens qui peuvent exister dans l'extrême droite européenne du FN à Svoboda. Mais le FN français, cette vieille institution de la 5e République, utilisée cyniquement pour faire peur au peuple de gauche quand il rejette les idées, les politiques libérales des gouvernements de gauche et dans laquelle des secteurs du capitalisme français et de son État ont leur relais au cas où la zone euro s'effondrerait. Le FN a choisi de ne pas faire campagne contre les Russes supposés rouges. Le FN n'a pas choisi de se mettre du côté des nationalistes ukrainiens, pourtant présumés fascistes. Le FN a choisi, avec le flair contre-révolutionnaire, le con russe. Idem pour la mouvance soralienne et le réseau Voltaire, qui dans son ensemble ne soutient pas les nazis ukrainiens, mais bien les chats russes. Méfions-nous du loup qui dort. Et pour, voilà, du coup, c'est un peu une critique de voir la binarité des choses. Et en info, dimanche 2 mars, 2000 personnes à Moscou manifestaient contre la guerre en Ukraine. Plus de 300 ont été arrêtés et molestés à l'approche du ministère de la Défense et de la place du Manège. La plupart des détenus portaient des drapeaux ukrainiens ou des affiches anti-guerre. Parmi les personnes arrêtées, le correspondant du journal Moscow Times, en dépit de la présentation d'une carte de presse et de deux autres membres des médias. Les manifestants ont scandé « Non à la guerre, guerre à Poutine, paix pour le peuple ». Ils répondaient « La guerre n'est pas autorisée » aux policiers qui leur disaient que, eux, leur manifestation n'était pas autorisée. Du coup, ça fait un peu plaisir que de voir qu'il y a quand même des personnes qui sont contre le gouvernement Poutine. Et là, du coup, nous, en tout cas, dans la ligne du Canu Info du vendredi soir, ça nous parle un peu plus de voir les manifestations contre les États.
Et pour Moscou, 2000 personnes en manif, c'est pas mal, ouais. C'est beaucoup.
Mais c'est vrai que ça faisait penser aussi un peu rapidement sur ce qui se passe au Venezuela, là, la lutte qui est en cours depuis un mois, les émeutes et tout ça. Et du coup, par exemple, c'est mené notamment par un parti centriste. Et ils ont créé une page Wikipédia qui explique le déroulé des manifestations en cours, des différentes dates importantes, et qui demandent la réforme de leur régime. Du coup, en fait, ils demandent clairement un régime libéral, en fait, après un régime socialiste. Alors, du coup, c'est vrai que ça fait un peu comme... ça fait un peu le mélange qu'il y a en ce moment en France, par exemple, quand on voit qu'il y a plus de gens qui vont dans la rue, qui sont de droite. Du coup, on a un peu l'impression que les choses se retournent, même alors qu'il y a des émeutes et il y a des confrontations super violentes.
Bon, après, au Venezuela, c'est pas la même gauche qu'ici aussi. Et...
Oui, non, c'est sûr. Mais c'est juste pour voir aussi que, par exemple, on peut être un peu rapidement content de ce qui se passe au Venezuela. Puis quand on voit différents partis qui mènent un peu la danse, on se rend compte que la même critique un peu qui est faite là, qu'il faut bien différencier les différents enjeux.
Voilà, avant de revenir en France, on va s'écouter un peu de musique. On va rester en Russie avec un groupe qui nous vient de Mourmansk. C'est le Canu Info sur 102.2 FM. On vient de s'écouter un peu Mombus et on continue en France avec les manifs de Calais et de Nantes et un petit retour sur ce qui s'est passé là-bas, sachant qu'on en a pas mal parlé dans les médias et que voilà, qu'en disent les militantes.
Tu parles de Notre-Dame-des-Landes.
Tout à fait.
Oui, effectivement, on a beaucoup entendu parler de Notre-Dame-des-Landes parce que c'était une scène de guerre en plein milieu de Nantes, la belle Nantes toute retapée. Et aussi, c'est pour dire qu'il n'y a pas que les manifs de droite qui subissent la répression. un État républicain et juste envers toutes ces manifestations qui débordent. Et du coup, en fait, bah alors voilà, pour vite faire rappeler pour les personnes qui n'auraient pas suivi, du coup, le 22 février, il y avait une grande manifestation à Nantes. Appelé par plein de personnes et notamment les gens qui habitent sur la ZAD, du coup zone à détruire, contre le projet d'aéroport de Nantes qui, pour plein de raisons différentes, est absurde et détestable et du coup à lutter contre. Et malgré l'automne 2012 où il y a eu des expulsions massives et destruction de tout, bah, toutes les maisons qu'il y avait sur cette zone et la volonté ferme du gouvernement de construire tout de suite l'aéroport, il y a eu plein de choses. Du coup, la résistance des personnes qui squattaient, une sorte de mouvement citoyen,
les agricultrices et les agriculteurs aussi.
Et aussi, ils ont fait plein de recours en fait contre le projet. Voilà. Aussi la CIPA. Voilà. Mais du coup, il y a des sites internet et puis on en a parlé assez souvent sur Radio Canu. Et aussi, bon, du coup, c'est des grands projets qu'on appelle les grands projets inutiles. À Lyon, par exemple, il y avait une manifestation contre les grands projets inutiles le même jour, là, le 22 février, comme par exemple le TGV Lyon-Turin, les autoutes et aussi une ligne de TGV qui relierait Toulouse, le Pays Basque, l'Espagne. Là. Voilà, tous ces grands projets que l'État met en place et puis à coup de bulldozer et d'expropriation. Et du coup, comme toujours, comme malheureusement assez souvent à la fin des manifestations, il y a quelques personnes qui se font prendre et se font arrêter par les policiers, des arrestations complètement arbitraires, souvent juste comme ça, là où c'est le plus facile. Et lundi à 14h, il passe au tribunal de Nantes. Un procès, voilà, où bien sûr tout le monde, juge, procureur et puis avocat, se sont mis ensemble pour montrer à quel point ces personnes étaient dangereuses et des émeutières. Et puis aussi les flics, eux, ont témoigné de la violence qu'ils avaient pu vivre et comment ils avaient été victimes et de la peur qu'ils ont eue. Voilà, c'est souvent comme ça que ça se passe, un procès dans ces cas-là. Et du coup, ces personnes, quand elles ont été arrêtées, elles ont passé 48 heures en garde à vue. Et elles sont enchaînées à un procès comparution immédiate, qu'ils n'ont pas refusé, on peut refuser. Et le résultat, ils ont eu 5 mois ferme, une personne 5 mois ferme, une personne 5 mois avec sursis, une autre 6 mois ferme et révocation de 6 mois de sursis de mise à l'épreuve, soit un an ferme au total, et aucun mandat de dépôt. Voilà.
Ce qui est bien, aucun mandat de dépôt pour, en tout cas, les personnes, ça veut dire qu'elles sortent et qu'ensuite, elles effectuent leur peine plus tard. Et ça donne notamment la possibilité de les faire sous bracelet électronique ou avec d'autres arrangements, si elles préfèrent être en prison chez elles avec un bracelet ou en prison à l'extérieur, ou les convertir avec
d'autres peines. En semi-liberté aussi, si tu travailles, par exemple.
Ou si tu travailles en semi.
Mais aussi, ça, comme... C'était la polémique de cet été, mais comme c'est des courtes peines, s'il n'y a pas de place en tôle, des fois t'es jamais appelé à la faire, à ta peine. Voilà, après on dit pas ça que malheureusement beaucoup de personnes sont amenées à les faire, mais il y a aussi ça, cet été il y avait une polémique. Quoi, des juges, ils n'appliquaient pas les peines alors que n'importe quel gouvernement, ils ont beau vouloir construire plus de prisons, tout ça, en fait, les sanctions que mettent les juges, ça n'arrive pas à suivre, quoi. C'est aussi les petites... quand t'arrives à avoir un peu de chance. Et après on revient sur du coup les manifestations de Calais. Il y a 15 jours on avait un militant au téléphone qui nous expliquait en fait la situation de ce qui se passait à Calais. Pareil, je vous refais un petit topo. Du coup il y a eu avec la maire de Calais qui appelait à la lutte contre les squats illégaux occupés par des migrants et puis des militants d'extrême droite avec des keufs, des familles honnêtes et propres et blanches qui avaient un seul mot d'ordre, sauvons Calais, parce que Calais est en proie à je ne sais pas quoi, hein, je sais pas ce qu'il faut sauver, quoi. On se demande. Et du coup, en fait, ces manifestants, ces fascistes, ils sont dans la rue et ils sont devant les squats et ils foutent la pression aux militants. Du coup, c'était un peu ça la dernière fois qu'on les avait au téléphone. Et puis, par rapport, face à ça, le réseau No Border et des militants en soutien aux migrants qui se retrouvent à cette ville de Calais souvent pour passer en Angleterre. Du coup, ouvrait des squats et essayait un peu de faire une campagne de réquisition de lieux pour avoir du coup des logements dignes pour les gens, des espaces de se rencontre, de solidarité, pour notamment filer la main sur les papiers, pour pouvoir faire des bouffes collectives, parce que voilà, quand t'es migrant, quand tu débarques dans un pays, bah, si t'es pas demandeur d'asile, t'as pas de thunes, et puis si tu peux pas trouver du taf, ben au black, et ben tu t'as pas de thunes, du coup comment tu fais pour te débrouiller, et t'es aussi souvent seul, voilà, avec des parcours des fois plutôt trash, selon comment t'as réussi à venir en France. Ils appelaient une manif le 1er mars 2014. Malheureusement, on peut dire quand même malheureusement, ils étaient que 300 à manifester. Mais bon, c'est toujours 300 personnes dans la rue qui sont là et fiers et dire qu'ils sont pas d'accord avec les politiques des États en solidarité avec les migrants et contre la pression de l'extrême droite. Bon, ça reste toujours que 300 personnes, mais bon, c'est quand même beau.
En même temps, Calais, c'est pas Lyon, quoi. C'est peut-être 100 fois plus petit. Alors,
ouais. Voilà. Voilà. Et avec des banderoles en solidarité un peu de partout, avec bienvenue, non aux frontières, etc. Et dans la nuit, qui a suivi la manifestation, il y a eu de nombreux tags qui ont été faits dans la ville en solidarité avec les migrantes et des tags antifascistes. La permanence électorale de la maire de Calais, Natacha Bouchard, a été attaquée, portes défoncées, mobilier endommagé. Et pas mal. Et puis, cette même nuit-là, 5 personnes ont été arrêtées, 2 pour les tags et 3 pour la dégradation de la permanence. Malheureusement. Ils ont toutes refusé de se soumettre aux prises d'empreintes et photos, et une partie d'entre eux ont refusé de donner leur identité lors de la garde à vue. Ils ont été jugés en comparution immédiate le 3 mars. Le procureur a demandé des condamnations à 6 mois pour les dégradations du local de campagne et 3 pour les tags. Et elles ont toutes été relaxées pour ces faits, mais condamnées à 3 mois de sursis pour le refus d'empreinte.
Ça, c'est un peu fou, quoi, parce que du coup, si elles sont relaxées pour tous ces faits, ça veut dire qu'elles étaient innocentes. Et si elles étaient innocentes, eh ben, ça veut dire que la garde à vue, en fait, elle n'avait pas tant lieu d'être que ça. Et du coup, les relevés d'empreintes génétiques non plus. Alors, c'est vraiment pour foutre la pression que les juges, quand ils déclarent une relaxe sur un délit comme ça, quand même, ils vont nous condamner. Sur des refus d'empreintes après 2-3 mois avec sursis, c'est pas non plus énorme, mais on s'en sort.
Et on continue aussi un peu pour dire ce qui se passe à Calais, parce que c'est, il y avait des résumés de journée tous les jours à partir du 1er mars. Et par exemple, le 7 mars, il y a une manifestation. Du coup, il y a une personne qui est au centre de rétention de Coquel qui est en grève de la faim. Voilà, du coup vous pouvez aller sur le site No Border pour avoir des informations et vouloir peut-être écrire des lettres au préfet, au juge et tout ça pour mettre la pression pour que la personne soit libérée, parce qu'elle doit être expulsée en Hongrie, qui serait le pays où elle serait passée en premier pour faire sa demande d'asile. Du coup, avec la procédure Dublin, quand on passe dans un pays et après par exemple on voudrait aller en Allemagne, mais on passe d'abord par la Bulgarie. Et en fait, ça sera en Allemagne, on voudrait habiter, faire sa demande d'asile parce qu'on a de la famille, parce qu'on parle la langue ou parce qu'on a confiance dans ce pays, pour X raisons. Mais t'es renvoyé en Bulgarie, du coup, ça fait que les pays comme la Bulgarie, la Grèce, tous les pays, l'Italie, l'Espagne, ils peuvent pas du tout gérer ce flux de personnes qui sont en plus renvoyées par la procédure Dublin. Et du coup, cette personne, elle est renvoyée en Hongrie et elle conteste ça, et c'est pour ça qu'elle est en grève de la faim. Et par ailleurs, le mardi 7 février, une manifestation bruyante a été tenue en solidarité en dehors du centre de rétention de Coquel à Calais. Ce centre de rétention est du coup dans le but de retenir des sans-papiers, des personnes qui sont là juste pour être étrangers, et ils sont retenus jusqu'à 40 jours. Du coup, les gens, ils ont réussi à communiquer avec les retenus en parlant au-dessus de la grille, en faisant des gestes, en criant comme ça, en faisant des parloirs sauvages comme ils pouvaient, et en essayant de lancer de la bouffe et des cigarettes à travers les fenêtres. Ce que disent les détenus qui sont dans ce centre de rétention, c'est que les gens dorment dans des salles bondées où ça déborde, où les gens dorment dans les couloirs, ils ont pas assez de bouffe, tout le monde crève la dalle. Là, il n'y a pas de bouffe halal, donc du coup, les détenus musulmans mangent peu, ils ont juste, par exemple, ils mangent surtout du riz blanc. On leur refuse l'accès à la cour extérieure. Il y a beaucoup de plaintes contre les conditions de détention qui sont ignorées. Des rumeurs courent que 4 personnes ont réussi à s'échapper il y a 2 semaines et depuis, les conditions de détention ont empiré. Et du coup, ça a fait qu'ils ont renforcé, ils ont renforcé la sécurité. Et voilà, du coup, ces centres de rétention rentrent dans une logique qui augmente les systèmes de ségrégation, renforce les frontières, ça construit des murs et des barrières encore plus hauts et tout ça. Voilà, personne n'est libre tant que le monde n'est pas libre.
Merci bien pour ces petites infos. On se met un petit bout de Reckoning avant de parler de Tomboy.
C'est par rapport à Tomboy, c'est un film qui a été fait sur une enfant qui se considère garçon et du coup qui déménage et joue quand elle rencontre des nouveaux jeunes là où elle habite, elle se fait passer pour un garçon. Voilà, et du coup c'est son rapport à sa transidentité, à son changement d'identité que du coup lui choisit. Au cours de son enfance. Et en fait, il devait être diffusé sur Arte et puis dans des écoles pour discuter en fait de son rapport au genre quand t'es enfant. Et du coup, c'est un assez beau film fait avec des gamins. Et voilà, et du coup, bah, Civitas, les très célèbres Civitas qui mènent le mouvement contre la loi pour le mariage pour tous et tout ça, et qui pleurent à la déchéance de la famille, à la fin de l'ordre moral et tout ça, qui est une asso complètement catho-réac de droite. Du coup, le 17 février, lancer un appel afin de tenter de faire déprogrammer la diffusion de Tomboy sur Arte et d'interdire les projections en milieu scolaire. Voilà. Dans la continuité aussi avec la théorie du genre et tout ça. À peine t'as des petits acquis féministes et puis de la visibilité homosexuelle que tout le monde s'abat dessus en disant « Oh mon Dieu, c'est trop horrible, tout le monde veut qu'on devienne homosexuel. » Voilà. Et du coup, ils ont eu 30 000 signatures et du coup, il y a un appel sur Internet à signer le texte pour soutenir la diffusion du film Tomboy. Et du coup, j'appelle à pétition, voilà, en fait, est-ce que tous les moyens d'action sont bons ? Non, mais bon, la pétition, ça ne fera pas changer grand-chose, mais même temps, là, dans ces petits moments-là, ça peut montrer un peu qu'il y a plein de gens qui se sentent concernés par un sujet. Et du coup, l'adresse est soutenons Tomboy contre Civitas. wesign.it/fr. Wesign it, c'est en anglais, ça veut dire nous signons. wesign.it. Voilà, vous pouvez peut-être rechercher par vous-même sur Internet.
Ou ce sera sur le blog aussi des Canu Info.
Voilà, mais c'était juste pour montrer. C'était pour aussi visibiliser en fait qu'il y a peu de films qui réfléchissent sur l'enfance et qui montrent en fait des enfants qui sont pas forcément d'accord avec les étiquettes sur lesquelles qu'on met. Et ça pourrait être plein d'autres questions aussi. Et du coup, là, c'est un peu une réflexion philosophique et qui montre en fait que c'est pas. Son identité sexuelle, celle qu'on te donne à la naissance, elle est pas évidente. Et du coup, il y a peu de films comme ça en France. Et là, les gamins, ils jouent super bien, c'est hyper intelligent. Du coup, ça fout les boules.
Et voilà pour les infos générales. On va passer aux petites infos anticarcérales.
Youpi!
Youpi! On part très loin, déjà, du départ, avec le centre de rétention de Manus en Papouasie-Nouvelle-Guinée. sur le territoire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais gérée par l'Australie et qui accueille dans des conditions complètement folles, déplorables, des migrantes qui voulaient rejoindre l'Australie. Manus, c'est une île vraiment à des centaines de kilomètres au nord de la Papouasie, à des milliers de kilomètres de l'Australie. De 2002 à 2007 et à nouveau depuis 2012, l'Australie déporte les migrantes. Elle les déporte, l'Australie, pas seulement à Manus, mais aussi dans l'état de Nauru. C'est un micro-état qui est encore plus loin de l'Australie. Et là-bas, c'est encore pire parce que sur 10 000 habitantes de l'état, il y en a 90% qui sont au chômage. Et le pays compte vraiment sur l'argent du centre de rétention administré par l'Australie. Les migrantes qui sont déportées dans ces deux centres-là, à Manus et à Nauru, n'ont aucune chance d'avoir des papiers australiens. Au mieux, elles peuvent espérer une permission de séjour en Papouasie ou à Nauru. Et pourquoi on en parle ? Parce que en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la surveillance du camp de Manus est assurée par qui ? Une compagnie privée, G4S, qui est payée par l'Australie. Et la surveillance, c'est service minimum. Et le 17 février dernier, on en parlait il y a deux semaines, c'est un groupe d'agents de sécurité papou qui a attaqué les migrantes. Ils les ont traqués chambre par chambre, armés de machettes, de matraques, de baramines. Il y a eu un mort, Reza Barati, migrant iranien, et plus de 60 blessés. Par exemple, déjà, ce groupe d'agents de sécurité, on ne sait pas trop, mais il y a des chances qu'il ait été embauché par justement G4S, la société qui fait la sécurité, sur le camp de Manus. Alors c'est grave comme accusation, mais voilà. Et aujourd'hui, tout le monde dans le camp est traumatisé. Et comme dans le camp, tout est privatisé, il n'y a pas de médecin public australien. C'est une société privée, IHMS, qui prodigue les soins pour les migrantes. Et suite à cette action des agents de sécurité papou le mois dernier, en fait, tous les migrantes sont traumatisés et IHMS a du mal à faire face aux soins qu'elle doit prodiguer. Et elle a écrit une brochure pour que ses employés prennent en compte le traumatisme. Il y a quelques citations qui sont disponibles. Je peux vous en lire une ou deux et c'est assez hallucinant. Par exemple, si une migrante demande à une infirmière, est-ce qu'ils vont revenir nous taper dessus ? L'IHMS, la société qui fait la santé, suggère de répondre « La sécurité est renforcée pour vous protéger. Nous vous demandons de ne pas nourrir de ressentiment contre la population papou, etc. Nous espérons qu'elle vous traitera avec respect, tout ça, tout ça. » Autre exemple, la question « Pourquoi l'Australie s'en fout et pourquoi je ne devrais pas haïr les Australiens pour les traitements qu'ils me font subir ?» Et là, les toubibs devraient répondre « Nous comprenons votre sentiment, mais comprenez que tous les Australiens ne pensent pas comme le gouvernement et il y en a qui sont inquiets de votre sort et veulent vous aider. » Donc c'est un petit big up à toutes les manifs qu'il y a eu en Australie, les manifs qu'il y a eu aussi dans les camps et tout ça contre l'ouverture de ces camps-là et machin, qui sont reconnus ici. Ça fait un petit peu plaisir. Et en attendant, on espère que tous ces migrantes vont pouvoir sortir un jour des tentes.
Et on va vous parler de Christine. Alors, la méga combine, émission de Radio Canu, mercredi, faisait un reportage d'une heure où, du coup, on entendait Christine parler de plein de trucs. C'est une meuf qui est incarcérée en ce moment au centre de détention de Réau en banlieue parisienne et qui, à son arrivée en mi-octobre 2013, s'est vue refuser à son arrivée la carte de circulation nécessaire au passage des multiples sas de sécurité au sein de la tôle. Du coup, elle est maintenue en régime porte fermée, entre guillemets. Et pour les détenus placés sous ce régime, il y a une seule pièce qui fait qu'elles peuvent rencontrer les autres détenus, c'est la salle de convivialité. Et début décembre, l'administration pénitentiaire, la paix, a décidé de fermer cette salle sans donner de motif à cette décision. Du coup, Christine, comme on en parle assez souvent, du coup, tout de suite, elle demande des explications, elle se laisse pas faire. Et puis, comme toujours en prison, la paix n'apprécie pas cette insolence et lui colle au total 21 jours de mitard en faisant tomber des comptes rendus d'incidents gardés sous le coude. Au mitard, elle continue de protester pour avoir un poste de radio qui est obligatoire depuis la loi pénitentiaire de 2009. Commissaire, vous pouvez nous écouter si vous faites passer le message à la tôle de Corba, Saint-Quentin-Falavier et tout. Et voilà, et si vous voulez de l'aide, vous pouvez nous dire, pour ceux qui nous entendraient, qui sont dans les tôles, vous pourrez peut-être nous écrire une lettre et peut-être qu'on pourrait peut-être organiser un réseau de solidarité si vous voulez obtenir un poste de radio. Alors, du coup, à sa sortie de Mitard, elle rédige avec ses co-détenus un courrier destiné à la paix, revendiquant la réouverture de la salle de convivialité, ainsi qu'une ouverture exceptionnelle pour le 1er janvier, pour prendre le repas ensemble. La paix répond que le 31 décembre, et le chef de détention, Oaki, convoque bien sûr que Christine pour lui dire que ça se fera pas, qu'ils n'ont pas la réouverture de la salle, et qu'elle doit le dire aux autres de ses copines. Alors du coup, c'est quand même pas très très évident d'être prise comme meneuse d'un mouvement, et en plus de devoir se retrouver à dire la mauvaise nouvelle, et elle refuse de devoir dire la mauvaise nouvelle au reste de ses co-détenus. Et Oaki, là, du coup, insinue qu'elle est la meneuse et qu'elle aurait manipulé les autres pour rédiger la lettre. Et là, il y a une sorte d'affrontement qui se passe, et du coup elle se fait prendre par les trois matelots qui sont là, et Christine se retrouve à mordre le doigt de la chef de détention qui l'aurait énervée, et du coup pour stopper l'humiliation qu'elle avait et pour ne pas se laisser faire, et elle se fait du coup tabasser après avec des coups de poing au visage. Suite à cette altercation, Christine prend 30 jours de mitard et Oaki porte plainte pour se faire un 13e mois, et puis tout ça, quoi. De toute façon, c'est le retour à l'ordre. Et le dernier jour de mitard, Christine est placée en garde à vue et présentée au TGI de Melun pour être jugée sur cette plainte. Christine refuse la comparution immédiate parce qu'on a le droit de refuser la comparution immédiate pour avoir le temps de choisir son avocat et de faire une défense qui sera correcte. Parce que t'as le temps et t'as choisi la personne que tu veux qui te défende. Du coup, elle a été convoquée le 5 mars au TGI de Melun, et il y a eu un appel en fait qui a été fait pour aller au TGI de Melun, même si c'est loin d'ici, parce qu'à la base Christine, elle était du coin, elle a été son premier procès a été à Lyon, et puis du coup elle a fait combien, attends, ils nous disent, en 14 mois elle a passé 205 jours au mitard, fait 70 jours en quartier d'isolement, et c'est sa 7e tôle. Voilà, du coup, il y avait un appel à rassemblement pour son procès, mais on n'a pas de communiqué qui dise comment ça s'est passé depuis. Et aussi, on vous apprend que le 13 février 2013, Christine était passée en procès à Lyon. Le parquet avait pu juger la peine trop clémente, et du coup fait appel, et le prochain procès aura lieu le 14 avril à 13h30 à la cour d'appel de Lyon. Pareil, les gens ils appellent à un soutien pour pas laisser Christine se faire broyer par cette machine. Voilà. Et si vous voulez lui écrire, sa nouvelle adresse c'est Christine dans la tôle où elle a été transférée, parce que j'ai oublié de vous dire, après elle a été transférée dans une nouvelle tôle, et du coup elle est au centre pénitentiaire de Rennes, et sa nouvelle adresse est Christine Ribailly, écrou 79 93 CPCD de Rennes, 18 rue de Châtillon, 35 000 Rennes. Voilà, pour lui exprimer votre solidarité et votre soutien face à la répression qu'elle se prend.
Merci pour ces infos de Christine. Et puis
avant ou de rien, très cher.
De passer au bref, on va parler un petit peu de la tôle de Nancy. Parce que l'OIP sort un petit rapport là, sur les conditions d'attente des détenus qui pour une consultation médicale dans la tôle de Nancy-Maxéville. Et là, on se retrouve à avoir des détenus à plusieurs dans des box de 2,5 mètres carrés. Qui attendent entre 3 et jusqu'à 10 détenus peuvent s'y retrouver pour des durées de 20 minutes à plusieurs heures. Des personnes qui disent qu'elles ont attendu 3 heures, 4 heures à 5, 6, 10 dans 2,5 mètres carrés. Vous pourrez essayer ce soir, c'est assez facile à faire. On fait un trait de 2 mètres au sol, un trait de 1,25 mètres au sol. On essaie de tenir à 10 là-dedans et on s'imagine pendant des heures.
Puis le pire, c'est essayer de faire un RM check là-dedans.
Voilà, ça c'est tendu.
Je pense que ça va être vraiment tendu.
Et l'AP, elle dit que cet endroit, c'est une salle d'attente, quoi. Elle manque pas d'air. Les détenus, ils parlent plutôt de cage et de cage en béton.
Et mais c'est des salles d'attente vues par l'administration pénitentiaire. Quoi. Ça montre un peu leur logique, en fait. C'est peut-être pas mal qu'ils aient osé dire ce mot, comme ça, ça montre. Bah oui, de toute façon, on est en tôle. Voyons.
C'est une salle d'attente, quoi. Vous pouvez rester debout, collés les uns aux autres. Il n'y a pas d'espace pour respirer.
Et qui dit qu'en tôle, c'est l'hôtel? Qui a osé dire ça?
C'est dégueulasse, les murs sont couverts de crachats, il y a des traces d'excréments, d'urine, de transpiration, ça pue, comme on peut se l'imaginer. Il y a plein de détenus du coup qui renoncent à avoir accès à des soins médicaux parce qu'ils savent qu'avant il y a une attente interminable dans un endroit qui est aussi malsain que ça. Il y a pas mal aussi de violence parce que bon, quand on se met à 6 ou 7 dans si peu d'espace, c'est normal que la tension monte au bout d'un moment. Et c'est déjà, pourtant, c'était il y a un bout de temps, en 2012, on est en 2014, hein, en 2012, il y avait eu déjà une alerte sur ces conditions-là. Depuis, rien n'a bougé. Le gouvernement fait comme si rien n'était. Et en attendant, il y a des détenus qui refusent d'aller se faire soigner, ou il y a des agressions dans cette salle d'attente, comme ils disent, dans cette cage. Et voilà, à noter quand même, le centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, c'est une prison, elle a été ouverte en juin 2009, quoi. Il y a 5 ans, quoi. Il y a des architectes qui sont payés des milliards pour construire des tôles, mais alors, pour faire une salle d'attente digne, avant d'aller voir le toubib, ça, il n'y a personne qui y pense, quoi.
Elles sont bien, leurs nouvelles prisons modernes, nouveaux modèles et tout, peut-être d'humanité, tout ça.
Ouais, c'est l'humanité, ouais.
C'est bien l'humanisme. Des belles valeurs.
De l'humanité, nous on préfère crasse, alors on va se l'écouter un petit peu avant de passer au bref de détention.
Pof, vous avez vu comment on est nous, Kenny Info?
Bam!
Et alors les traditionnels brèves de détention, du coup la prison c'est pas un lieu où les gens regarderaient juste la télévision, c'est un lieu avec des dominations de la paix sur des prisonniers et du coup il y a des résistances, plein de choses qui s'y passent et du coup c'est ce qu'on tente de vous relayer même si avec la presse, grande presse, c'est pas toujours facile.
Et on commence par des résistances de l'extérieur. Dans la nuit du 19 au 20 février, 3 maisons de justice et du droit ont vu toutes leurs vitres brisées à Saint-Denis, Aubervilliers et Paris 10e, en solidarité avec les personnes sans papiers en révolte au centre de rétention administrative de Vincennes.
Des détenus ont mis le feu à leur cellule le 25 février dans la tôle d'Anvers en Belgique. L'un d'eux a été légèrement blessé. L'administration ne communique pas sur les raisons de leur révolte. Et oui, souvent c'est pour demander soit des transferts, soit de la bouffe, soit quelque chose. Ils brûlent pas leur matelas comme ça.
On continue vendredi 28 février. Un détenu a été retrouvé mort, apparemment par pendaison dans sa cellule. Il devait être incarcéré dans la tôle de Luynes, près d'Aix-en-Provence, pour 6 mois. Il venait d'arriver.
Le même jour, dans la prison de Bonneville, près d'Annecy, un surveillant a pris plusieurs coups de poing de la part d'un détenu au petit matin. L'administration ne dit rien sur des raisons du geste du détenu.
Encore le même jour, décidément, une cellule du quartier disciplinaire a brûlé dans la tôle de Saint-Quentin-Fallavier, dans l'Isère, à côté de Grenoble. Comme d'habitude, la paix ne dit rien des raisons de la colère.
C'était l'âge Koumoun pour les détenus ce jour-là. Et le 2 mars, très tôt le matin, à Aix-en-Cours, près de Belfort, un bâtiment entier de la société FH Construction est parti en fumée. FH est visé car il fait le sale boulot de constructeur de tôle pour le compte de l'État. Et ouais.
Bien fait. Ça craque à la maison d'arrêt de Nancy, dont on vient de parler. C'est aussi dimanche 2 mars. Un maton a reçu un coup de tête et des coups de poing. Le lendemain matin, c'est une matonne qui a été molestée et l'AP ne dit rien des raisons de la colère soudaine des détenus. Peut-être ça a à voir avec les conditions d'accès aux soins, par exemple.
Ou par exemple que l'AP a refusé à leur famille ou à leurs amis l'accès au parloir et du coup, la détenue s'est retrouvée sans parloir. Dans la soirée de dimanche, une émeute a éclaté dans le centre de rétention d'El Shemezi à Jeddah en Arabie Saoudite. Les flics ont tiré sur les révoltés, faisant 10 victimes. Et aussi, j'ai lu que quand ils avaient arrêté plein de personnes à l'automne dernier, il y avait eu des émeutes aussi dans la rue avec les flics.
Et ouais. On finit les brèves de détention avec lundi. Une cinquantaine de détenus ont commencé une grève de la faim dans la prison de Rébus au Sénégal. Ils protestent contre la longueur de la détention préventive, 5 à 6 ans d'attente en tôle pour passer en procès. Ils protestent aussi contre la torture et la mort des détenus en prison. Mais la grève de la faim s'est terminée hier et on ne sait pas avec quel résultat. Et...
Et on continue avec les brèves d'évasion. Du coup, on dit souvent que la prison est juste un lieu de privation de liberté et une sanction pour réintégrer le détenu. Mais la liberté, bah, c'est quelque chose que les gens veulent coûte que coûte. Être juste privé de liberté, bah, c'est juste horrible. Et du coup, on vous relaie toutes les tentatives et les évasions qui marchent.
Ça commence avec dans la nuit du 19 au 20 février. Ça, c'était les brèves de détention encore.
Et non, on est les brèves d'évasion. Et voilà. Quand on nous fait croire que les murs ils sont toujours trop et qu'ils sont infranchissables.
Et on a de la chance, parce qu'en 15 jours, il y en a eu plein. Pendant un parloir, un détenu de la tôle de Wortel, en Belgique, s'est rendu aux toilettes et a simplement changé ses vêtements pour ensuite sortir tout naturellement avec les familles samedi 22 février après-midi. Pas de chance, il a été arrêté le jour même chez son frangin.
Le 24 février, deux personnes se sont évadées du centre de rétention administrative de Perpignan. On a envie dans de dire l'accent du sud comme ça. Ça donne trop envie d'être dans le sud. Une ou un complice extérieur les aurait aidés à découper les grillages dans la soirée et elles ont pris la fuite en voiture.
Bien joué. Un détenu s'est évadé de l'hôpital de la maison d'arrêt d'Amiens lundi 25 février en fait. Il a obtenu un transfert à l'hôpital et là, il a demandé à ce qu'on lui retire les menottes pour aller aux toilettes. Bousculant les matons et enjambant un mur, il s'est évanoui dans la nature.
Moins de chance pour trois autres détenus qui ont creusé le mur de leur cellule avec un pied de table pendant deux nuits, du 25 au 27 février. Le trou a été découvert avant qu'il ne puisse leur servir à se barrer. Jugés pour tentative d'évasion, ils ont dit que le trou était creusé pour cacher des téléphones et qu'ils ont été surpris par la chute des trois moellons. Des peines de 10 mois et un an supplémentaire sont prononcées en comparution immédiate. Ouais, c'est ça, c'est que souvent quand tu te fais choper, quand tu fais une tentative d'évasion et que tu es retrouvé même après une évasion, ta peine, elle est. T'as des peines non compressibles qui se rajoutent à celles que tu étais en train de purger et aussi après tu deviens détenu particulièrement surveillé avec du coup des conditions de détention encore plus horribles. Et ce qu'on vous disait la dernière fois, c'est que on te réveille la nuit et du coup c'est jugé comme une torture parce que tu peux pas dormir comme t'aurais besoin.
On continue avec vendredi 28 février. C'est 300 personnes migrantes qui ont tenté de passer par-dessus les hauts grillages qui séparent le Maroc de l'enclave espagnole de Melilla. 214 d'entre eux ont réussi, ce qui est énorme. Et par contre, les 80 qui ont échoué se sont fait salement tabasser par les flics marocains. Côté espagnol, autre ambiance. Les migrantes ont fêté leur passage en faisant une manif festive.
Et le 3 mars, un détenu a profité d'une permission de sortie pour ne pas revenir en tôle. Il est donc évadé de Fresnes en région parisienne. Nous lui souhaitons une belle et longue cavale.
Et voilà pour ces brèves. Le Canu Info du vendredi soir est en passe de se terminer, mais on a des messages pour quelques détenus de la région lyonnaise qu'on écoute tout de suite.
Askatasuna. Askatasuna. Les luttes n'ont pas de frontières. La répression des États non plus. Askatasuna. Les luttes n'ont pas de frontières. La répression des États non plus. L'autodétermination des peuples, des langues, est à défendre, à soutenir, à combattre. Nous laissons la parole aux familles de prisonniers et prisonnières basques. Nous parlons de ce qui se passe là-bas au Pays Basque, de ce qui se passe ici dans les tôles de Corba, Villefranche, Roanne. Parce que les luttes n'ont pas de frontières ni de murs. Askatasuna. Liberté et solidarité.
Jone, balba naiz. Denbora asko andamak ezket gordetzen hitz guztiok denak zuretzako eta ez dakitela nola eleazi nire blokeatzen naiz alako egoera baten aurre, baino nahi dut zutiak itea eunero zaitotela gogoan eta egitan bizi hau distantzira itena ibaga guaintxe bertan zurekin elkarbanatzen nahi naizela. Pile bat matxe zaitu, denak. Muxo handi bat eta animo asko jone. Apazu, eta apagu.
Et voilà pour le message. Si vous voulez nous écrire, vous pouvez envoyer des lettres à l'atelier des écritures. C'est l'atelier d'écriture, pardon, 91 rue Montesquieu, 69007 à Lyon. Et si vous voulez laisser des messages...
Du coup, la prochaine fois, ça sera le mercredi 19 mars, de 19h à 20h, au 04 78 29 26 00. Et sinon, on a un numéro de portable. Et du coup, vous tombez directement sur un répondeur. Et le numéro est le 07 81 35 93 71. 07 81 37 93 71. Et voilà, le prochain rendez-vous. Sinon, si vous voulez parler avec nous et être en direct avec nous, ça sera le 19 mars au 04 78 29 26 00. Et puis sinon, pour terminer le Canu Info, demain, c'est la journée... international des luttes des femmes, du coup, qui a été instauré par l'ONU. J'ai oublié. Mais voilà, c'est un jour, en fait, maintenant des organisations féministes ont de la visibilité et où des fois il y a des manifs de rue. Voilà, du coup, c'est un jour de lutte des femmes et souvent organisé par des orgas féministes. Et demain à Lyon, Écran Mix, un festival de visibilité gay et lesbienne, organise un marathon féministe toute la journée, du coup, avec différents documentaires et films. Et le matin à 11h, bah, je sais plus dans quelle bibliothèque de Lyon, mais un film qui s'appelle Lesbiana et qui est une sorte de documentaire sur les mouvements radicaux féministes qui décident de vivre en dehors du patriarcat sans les hommes. Et après, du coup, ça c'est pour la journée internationale des femmes. Et sinon, à Paris, il y a des manifestations, par exemple, mais à Lyon, il n'y a que dalle cette année. Et sinon, le 15 mars, à Lyon, à Paris, et peut-être ailleurs en France, il y a des manifestations qui sont appelées pour les 10 ans de la loi qu'avait mis en place Sarkozy sur l'interdiction du voile dans les écoles, qui avait cristallisé beaucoup de tensions en France sur le rapport à la laïcité, sur les discriminations qu'on puisse subir. Après les femmes voilées n'importe où, puis après du coup la loi elle s'est étendue à l'interdiction du niqab dans la rue. Là on avait entendu du coup des contraventions de femmes qui terminaient en arrestation des personnes qui protestaient autour. Du coup voilà, là c'est les 10 ans de cette loi. C'est pas du tout une fête de cette loi, en fait, du coup, qui cristallise un peu une tension autour du racisme et de l'islamophobie en France. Et voilà, du coup, ça sera à 14h, place Bellecour, le 15 mars. Et à Paris, je ne sais pas. Voilà. Mais au moins qu'à Lyon, il y ait du monde contre cette loi.
Et voilà, ben. C'est la fin du Canu Info, oui, vous êtes toujours sur le 102.2 Radio Canu. Et on va laisser les micros à Noise Pollution.